Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Que la paix de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin soit le partage de chacun d'entre nous. Nous sommes passés de 2023 à 2024 et communément on se dit bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé, c'est bien. C'est un peu ce qui découle de la coutume. Mais dans la réalité divine, Jésus nous a dit qu'à chaque jour suffit sa peine et que le lendemain aura soin de lui-même. Mais ce que nous pouvons comprendre et saisir, qui a véritablement une source biblique, c'est qu'un homme qui était un roi d'Israël nommé Ézéchias, lorsqu'il a expérimenté la grâce de Dieu qui lui a bien permis de recevoir l'exaucement de sa prière, Ézéchias a composé un cantique. Et dans ce cantique, il est conduit à demander, ou plutôt à dire à Dieu éternel, c'est par tes bontés que l'on jouit de la vie. Il rajoute, c'est par elle que je respire encore. Donc c'est un homme qui est conscient que le souffle de vie qu'il possède, Dieu en est le propriétaire et qu'à partir du moment où il a cru bon le lui renouveler, donc il permettra qu'il puisse en faire un bon usage, c'est-à-dire jouir de la vie. Et ce matin, nous ne sommes pas Ézéchias, nous sommes ce que nous sommes avec la grâce de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu a bien voulu, comme notre Père, renouveler en nous son souffle de vie. Il en est le propriétaire. Alors, puisqu'il nous a laissé son souffle de vie, eh bien, le Saint-Esprit en nous va nous amener à aller plus loin dans cette réalité-là pour nous placer sous la dépendance d'une prière qui a été adressée à Dieu éternel, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à ta sagesse. Amen. Et béni soit Dieu de ce que depuis le jour nous sommes rentrés dans ce plan béni d'adoption. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ, il a fait de nous ses enfants. Ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, c'est parce que l'apôtre emploie l'expression qui découle d'une louange qu'il adresse à Dieu lorsqu'il met en évidence autant la prédestination divine qui a mené l'élection, l'élection qui a mené l'appel divin dont nous sommes les objets, et puis il mentionne que tout cela, il emploie trois expressions qui découlent du plan de Dieu, il dit, selon le conseil de sa volonté. Après, il va employer le bon plaisir de sa volonté, et puis il conclura par le mystère de sa volonté. Donc cela veut dire que c'est quelque chose qui dépend uniquement de la volonté de Dieu, de ce que nous sommes devenus ses enfants ce matin. Et puis, il va mentionner aussi l'expression « selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même ». Ça veut dire que si ce matin je suis enfant de Dieu, c'est parce que Dieu l'a prévu, l'a préparé depuis les temps anciens, les temps antiques. Et puisqu'il a préparé ça depuis les temps anciens, il m'y a fait entrer comme une réalité que je vis aujourd'hui. Mais cette réalité-là me propulse déjà, dit avec moi, dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Ô profondeur de la sagesse de Dieu, ô profondeur des mystères de Dieu, que ses œuvres sont admirables, que ses pensées sont profondes. Alléluia, c'est un mystère. Connaissez-vous, frères et sœurs en Christ, le premier mystère de Dieu? Dites-moi, est-ce que vous connaissez le premier mystère de Dieu? Allez-y, vous avez carte blanche. La vie, le mystère de Dieu, à savoir Christ. Non, pas Christ en nous, Christ. Christ en nous, c'est un autre mystère, révélé parmi les païens. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Bon, écoutez, si vous lisez Colossiens, vous allez voir ce que je vous dis, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. De l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, vous allez le trouver.
mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Et puis après, notre mystère arrive. Ce mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant parmi les païens. Et là, ma sœur, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Gloire à Dieu.
Le pasteur Gentil, vous êtes toujours en train de nous enseigner. Mais écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne vais pas vous parler de moi, il n'y a rien de bon en moi. Mais quand je vous parle de Jésus, de l'Écriture, là, je suis sur le bon terrain. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Voilà. Mes bien-aimés, ceci pour vous dire que, par la grâce que Dieu nous fait, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver. Et je suis heureux de ce que Dieu m'a accordé la grâce de terminer l'année dans les bonnes conditions, les meilleures. Et de ce que ce matin, il a bien voulu ouvrir mes yeux. Il a voulu permettre que mes yeux voient le jour. Et quand c'est comme ça, eh bien, je ne peux que lui dire merci. Le louer, le bénir, l'exalter, l'honorer, le magnifier et célébrer par mes louanges sa majesté. Voulez-vous que nous nous occupions de nos âmes maintenant? Est-ce que vous voulez vous occuper de votre âme? Oui, on est là pour ça ce matin. Mais il y a quelqu'un qui veut s'en occuper particulièrement. C'est celui qui l'a racheté. Et celui qui a racheté nos âmes, il s'appelle Jésus-Christ. Alors nous allons prendre nos Bibles. Et je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu. Nous allons regarder un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc. Je vous donne la référence, car si je vous dis l'évangile de Marc, vous allez parcourir tout l'évangile de Marc, cherchant où se trouve la référence. Mais je vous donne l'évangile, mais je vous donne aussi la référence pour que nous puissions en prendre connaissance. Dimanche dernier, c'est le pasteur Célestine qui était responsable de nous donner la pensée de Dieu pour le dernier culte de l'année 2023. Vous rappelez de quoi il a parlé dimanche dernier? Vous vous rappelez ou pas? Alors dites-moi. Non, il nous a parlé surtout à considérer les temps où nous sommes. Et il a pris des références bibliques qui ont servi de tremplin à nous donner aussi à considérer que Dieu nous appelle à être vigilants. La vigilance comme les vierges. Amen. Mais ce matin, Dieu va nous conduire sur un autre terrain. Dieu va nous conduire sur un autre terrain. Et quand je me tenais devant lui ce matin, bonheur, parce que j'aime bien quand je dois être de service, un peu plus tôt que l'aurore, j'aime bien me réveiller, et puis vous allez tout savoir. Quand je parle à Jésus, il dit, Seigneur, voilà, demain matin, tu me réveilleras à telle heure. Je puis chercher maintenant devant ta face, quelle est la pensée que tu veux communiquer à tes enfants. Et puis là, j'étais dans la maison, je tournais pas en rond, mais... Vous savez, ça tournait un peu en rond dans mon esprit. Parce qu'il y avait cette pensée qui arrivait, il y avait celle-là, alors, il dit, Seigneur, tu vois, bon, il y a plusieurs pensées qui cheminent dans mon esprit, mais toi, Jésus, qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse? Oui, comme notre Seigneur est bon, il m'a dit, Claude, ce matin, tu vas aller parler de la vie éternelle. Tu ne crois la vie? Oui, tu vas aller parler de la vie éternelle. Parce que dans ce cadre-là, certains enfants de Dieu, eux, sont au clair. Mais il y a certains qui, malgré le fait qu'ils soient enfants de Dieu, eh bien, pour eux, c'est quelque chose qui a, certes, une valeur, mais il en manque des références et des clartés pour que de plus en plus, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur vie comme enfants de Dieu, le Saint-Esprit leur donne de l'assurance. Et que cette assurance produit en eux des certitudes. Et que ces certitudes deviennent tellement inébranlables qu'ils vivent dans la relation spirituelle avec le Seigneur comme quelque chose qui est un acquis, un réel, quelque chose qui est réel.
Parce que la vie éternelle, moi, je ne le vois pas de mes yeux. C'est pas quelque chose que je touche. C'est une réalité spirituelle qui, par le Saint-Esprit, a pris effet en moi. Alors, écoutez ce que un jeune homme s'est approché de Jésus un jour, et écoutons ce qu'il dit à Jésus dans Marc 10, verset 17. Marc 10, verset 17. L'Écriture nous rapporte ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un jeune homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Mais Jésus va lui répondre, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Alors, Jésus qui sonde les cœurs, qui connaît exactement en détail tout ce qui est autant dans le cœur que dans la vie de l'être humain, particulièrement de ce jeune homme, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alors il dit, Alléluia! Écoutez, quand Jésus te dit que tu auras un trésor dans le ciel, dans la logique, tu dois dire Alléluia. Mais lui ne dit pas Alléluia. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc nous allons laisser de côté ces grands biens, nous allons laisser de côté la tristesse, mais nous allons nous arrêter sur la parole qu'il mentionne ou qu'il déclare à la fin du verset 17. La question est posée, et vous remarquerez qu'il n'a pas dit à Jésus, « Bon maître, est-ce que la vie éternelle existe ?» Non, il n'a pas demandé à Jésus, « Est-ce que la vie éternelle existe ?» Mais il a dit à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et quand nous regardons la manière qu'il a exposé non seulement son attachement, mais aussi sa pratique à la loi de Moïse. Il a dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, il était sincère dans sa pratique religieuse. Mais, savez-vous qu'on peut être très sincère dans la pratique des œuvres de la loi, mais c'est pas une référence qu'on a à la vie éternelle. Il savait que la vie éternelle était une promesse de Dieu qui avait dit dans le Lévitique, chapitre 18, verset 5, Dieu avait dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Alors peut-être qu'il avait saisi cette réalité-là et qu'il s'efforçait de pratiquer du mieux qu'il pouvait la loi de Moïse parce qu'il voulait entrer dans la vie éternelle. Mais la preuve qu'il pose la question à Jésus, comment faire pour y avoir pas, il n'y était pas entré. Peut-être ce matin, tu es un enfant de Dieu sincère, Peut-être que tu as rencontré Jésus comme ton sauveur personnel, mais en ce qui concerne la vie éternelle, il te montre des références, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que tu aies de la certitude, pour que ces certitudes te donnent de l'assurance et que cela soit une vie tellement intense en toi, car quand la vie éternelle est une réalité dans ton cœur et que tu la vis déjà de manière intense, les légères afflictions du moment présent et rien de ce qui est ici-bas ne saurait t'arrêter dans ta marche et dans ta persévérance dans les voies que le Seigneur t'a tracées. Gloire à Dieu. Donc, il n'a pas dit, Seigneur, est-ce que la vie éternelle existe? Il savait que la vie éternelle découlait de la pratique des œuvres de la loi selon la déclaration que nous venons de partager, mais il n'était pas encore entré dans cette réalité-là. Regardez avec moi comment, toujours dans la même direction, là c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 25. Nous allons découvrir autre chose. Qui va aussi nous amener sur le même terrain. Lorsque nous considérons Luc 10, verset 25, la Bible nous dit, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et le Seigneur lui donne un peu la même référence que ce qu'il a donné au jeune homme. Et là où je vais vous amener, c'est que la première lecture nous a montré un jeune homme. Mais là, c'est un docteur de la loi. Un docteur de la loi, c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, le mot docteur de la loi, il y a la connaissance de la loi de Moïse, il y a l'étude de la loi de Moïse, et il y a l'enseignement de la loi de Moïse. Donc, c'est pas n'importe quoi. Mais il pose la question à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire, frères et sœurs, en Christ, comme je viens de vous le dire, hein, du temps de Jésus, il y avait beaucoup d'hommes religieux. Ils étaient influents, ils étaient éloquents, ils étaient responsables, mais en ce qui concerne les réalités spirituelles qui découlent de la foi, et que Jésus communique à celui qui croit, ils en étaient loin. Alors ce matin, la référence est de savoir où j'en suis moi par rapport à la vie éternelle. Moi, je sais où j'en suis. Est-ce que toi, tu sais où tu en es? En tant que pasteur de l'Église, j'ai fait beaucoup d'enterrements. J'en ai fait beaucoup d'enterrements. Et c'est lorsque vous êtes confronté au départ d'un enfant de Dieu pour la patrie céleste, et que vous devez donner à l'auditoire autant la famille à ceux qui restent, concernant le défunt, les paroles d'espérance, eh bien là, moi je dis ce que dit l'Écriture, mais je ne suis pas à la place du mort. Hein. C'est un cas dans lequel chacun est un devant Dieu. Demain, moi je décède, mon épouse ne saura pas où j'en suis dans la vie éternelle, mais Dieu le sait. Comme il veut le savoir pour toi ce matin, et comme toi tu dois savoir où tu en es. C'est pourquoi le Saint-Esprit ce matin va te donner des bases. Première base. Vous savez, Jésus dans son ministère, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas regardé aux détracteurs. Il n'a pas considéré l'opposition des détracteurs. Mais il a affiché les réalités divines qu'il était venu mettre à la connaissance des hommes et des femmes de son époque. Soit la grande foule, ou soit ses disciples. Lisez avec moi l'évangile de Jean. Et regardons Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, à partir du verset 24. Jean 5, verset 24, c'est le récit qui suit l'intervention de Jésus dans cette piscine de Bethesda, où un homme qui était là depuis longtemps, malade depuis longtemps, depuis 38 ans, a retrouvé par l'intervention de Jésus la délivrance et la guérison. Et puis, lorsque cet homme a été rencontré par les gens religieux, eh bien, on lui a fait la remarque, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Mais lui, qui a expérimenté la grâce de Dieu et la délivrance, eh bien, il leur a dit, mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche, donc maintenant j'obéis à celui qui m'a guéri, je prends mon lit et je marche. Oui, quand Jésus vous a miraculé, vous êtes délivré de tant d'années, 38 ans de souffrance et de maladie, peu importe ce que les hommes disent, vous savez ce que vous avez été, et vous savez ce que Jésus a fait et ce que vous êtes devenu. Alors vous marchez, alléluia. Marche pour glorifier Dieu. Marche pour montrer que nous avons été l'objet de sa grâce. Alors regardez à partir du verset, j'ai dit quoi? J'ai dit verset 25? J'ai dit verset 24? D'accord, bien, verset 24 alors. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, dites avec moi, alléluia, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce ton cas ce matin, mon frère, ma soeur? Tu peux me répondre quand même. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Ne dis pas amen pour me faire plaisir. Hein? Dis amen si c'est une réalité dans ton cœur. Dis amen si le Saint-Esprit te le confirme à l'intérieur. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, non pas aura, mais il a la vie éternelle. Et il ne vient point dans le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire, les principes de la vraie vie selon Dieu ont pris effet dans son cœur. Et si sa vie à lui un jour va s'arrêter au cimetière et au tombeau, mais cette vie-là en lui ne s'arrêtera plus. C'est une vie qui prend fin et qui n'a plus de fin. Ça, les yeux de l'homme ne le voient pas. Ton voisin de palier ne le sait pas. Mais Jésus le sait. Et le diable, qui est l'opposant premier concernant cette réalité-là, il va déployer toutes sortes d'artifices pour te faire douter de ta vie éternelle. Mais il faut que tu lui dises que Jésus l'a vaincu. Et que tu crois à ce que tu lis et que tu vis ce que tu lis. Gloire à Dieu. À qui Jésus dit-il ces paroles? À qui Jésus dit-il ces paroles? Eh bien, le Seigneur a permis que je regarde dans l'Écriture, mais il dit ça à des Juifs qui voulaient véritablement attenter à sa vie et même le tuer. Il le dit, parce que lorsque cet homme a été miraculé dans la piscine de Bethesda, les conséquences ont commencé à découler. Et on s'en prenait à Jésus parce qu'il faisait ses miracles le jour du sabbat. Le Seigneur n'est pas venu particulièrement pour s'occuper du sabbat, il est venu pour s'occuper des âmes. Gloire à Dieu. Regardez avec moi le même texte. Mais regardez Jésus dans le même texte s'adresser à la même catégorie de personnes. Au verset 39, verset 39 de l'évangile de Jean, chapitre 5, Jésus leur dira, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles, quoi? La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, c'est-à-dire de moi, Jésus, qui donne la vie éternelle.
Et verset 40, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Ailleurs, il dira, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais si vous croyez ce que je suis, alors la vie éternelle est une réalité que le Saint-Esprit va mettre dans votre cœur. Alléluia. C'est ça, frère et sœur en Christ, qui est important pour nous ce matin. Et quand tu vis ça, Dieu te met au-dessus des contingences, des choses d'ici-bas. Et tu rentres dans cette réalité, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Regardez Jésus dans son enseignement qu'il donne. Dans Jean 10, verset 27. Regardez Jésus et écoutez Jésus. Jean 10, verset 27. Se définissant comme le bon berger, comme la porte, il va commencer au verset 14, Jean 10, verset 14. Jésus va déclarer, « Je connais mes brebis. » Alléluia. « Et elles me connaissent. »« Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Mais au verset 27, pour élargir la pensée de l'esprit, la pensée qu'il veut communiquer, la pensée de Dieu, l'enseignement qu'il veut dispenser, « Mes brebis entendent ma voix. » Je les connais et elles me suivent. Et ce matin, je ne suis pas en contre-espérance. En contre-espérance, c'est un intitulé pour la préfecture, pour les autorités. Mais moi, je suis Jésus-Christ qui me donne la vie éternelle, qui a livré sa vie comme la rançon qui devait être payée, qui a versé son sang à la croix du calvaire, et qui, lorsqu'il institue la Sainte Cène, la Bible me dit qu'il prend le pain, il le rompt, il le donne à ses disciples, mais lorsqu'il prend le vin et qu'il le distribue à ses disciples, il leur dit, car le vin, c'est le sang de l'alliance nouvelle, par lequel vos péchés ont été pardonnés. Gloire à Dieu! Donc, ce qui nous montre, frères et sœurs en Christ, que le maître dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Mais le verset 28, je leur donne la vie éternelle. Il n'a pas dit, je leur donnerai ou je leur ai donné, je leur donne. Cela veut dire qu'à partir du moment où tu fais l'expérience de la repentance, suivi de l'expérience de la conversion, accompagné de l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et que le Saint-Esprit te fait rentrer dans la réalité de la nouvelle naissance, il met en même temps en toi les prémices de la vraie vie selon Dieu. D'où la réalité qui découle de ce que Jésus dit dans un jour de deuil à la sœur du défunt nommée Marthe, qui adressait à Jésus des reproches d'être arrivé trop tard pour que son frère ne meure point. Jésus dira à Marthe, dans Jean 11 au verset 25, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, Marthe, il a la vie éternelle. Et quiconque vit et croit en moi, Marthe, ne mourra jamais. Et derrière ce mot ne mourra jamais, cela veut dire qu'il ne sera jamais séparé ni de Dieu, ni de moi. Crois-tu cela, Marthe? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Regardez avec moi Jésus parler, ou écoutez Jésus parler, ou pasteur gentil. Eh bien, dans Jean 17, verset 1er, Jésus va s'adresser au Père dans ce qu'on a appelé communément la prière sacerdotale ou la prière du souverain sacrificateur. Et lorsque le Seigneur permettra, dans sa grâce, nous allons nous arrêter sur cette prière pour tirer des tiroirs où nous allons découvrir comme une espèce de bilan. Jésus fait comme un bilan de sa vie, de sa mission. Il s'adresse au Père depuis la terre vers le ciel. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Nous allons regarder simplement ce que Jésus dit dans Jean 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair ou sur tout homme, afin qu'il accorde, quoi ? La vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et puis voici qu'il continue. Or, dites avec moi, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la vie éternelle. La première référence que Jésus met en évidence concernant cette vie éternelle qui était en Dieu, mais que Dieu a manifestée au travers son Fils, Jésus fait mention de cela devant le Père. Il dit, c'est qu'ils te connaissent. Et ce matin, frères et sœurs en Christ, plus ou moins, chacun à son niveau, nous avons la connaissance de Dieu. Car si je ne connais pas Dieu, comment puis-je avoir la vie éternelle? Mais la première référence de cette vie éternelle que Jésus me donne, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. La connaissance de Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y renferme. La connaissance de Dieu qui a créé l'infiniment grand comme l'infiniment petit. La connaissance de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La connaissance de Dieu qui, un jour, envoyait son Fils du ciel pour venir chercher et sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dirait l'apôtre Paul. La connaissance de Dieu qui m'a tellement aimé, qui m'a donné son Fils unique, afin que je ne meure point, mais que j'aie la vie éternelle. Or, dans la révélation que nous a apportée l'Évangile, dans la mise en évidence du plan béni de Dieu pour notre vie, ce qui nous a poussé à la repentance, et la repentance, c'est le pardon de nos péchés, eh bien, c'est quand j'ai expérimenté le pardon que Dieu donne que le Saint-Esprit m'a fait rentrer dans cette connaissance de sa personne. Personne n'a jamais vu Dieu, j'ai jamais vu Dieu de mes yeux. Et vous? Dieu est esprit. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire Jésus-Christ, est celui qui est venu révéler aux hommes le Dieu invisible. Ce matin, j'ai la vie éternelle. C'est une assurance, parce que je connais Dieu. Vous savez, quand vous lisez déjà dans l'Ancien Testament
ce qui va constituer en quelque sorte à la promulgation du salut par la grâce de Dieu prophétiquement, Jérémie 31:31. Le prophète reçoit l'oracle divin qui le conduit à mentionner « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je fais avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je conclue avec leur père lorsque je les ai sortis d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Mais voici, il va maintenant mentionner un autre aspect de l'alliance. Mais voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël. Et vous voyez qu'il ne mentionne plus la maison de Juda. La maison d'Israël, alors prophétiquement, c'est l'Israël céleste dans lequel Dieu nous a fait rentrer avec les promesses qui accompagnent notre foi. Une alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle, Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Nul ne va enseigner son prochain ni son concitoyen disant « Connais le Seigneur » car tous me connaîtront, dit l'Éternel, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Parce que je pardonnerai leurs péchés et que je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. L'expérience de la réception du pardon des péchés me fait rentrer dans la connaissance de celui qui m'a pardonné et m'introduit dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Quel programme béni, frères et sœurs, pour nous ce matin. Écoutez, quand vous avez ça en vous, vous pouvez avoir des millions sur le compte en banque. C'est pas une référence. Une belle maison où vous habitez, c'est pas une référence. Une résidence secondaire, que Dieu vous bénisse, un jour il faudra quitter ça. Mais la vie éternelle, c'est une réalité à l'intérieur. Et ça, personne ne peut l'enlever. Est-ce que c'est ton cas ce matin, mon frère, devant Jésus? Écoutez, mes bien-aimés, on n'est pas là pour jouer la comédie. Quand vous avez ça en vous, vous êtes heureux en Jésus-Christ. Vous le vivez. Et même si vous êtes montré du doigt, taxé d'illuminé, pris pour fou, peu importe, je sais en qui j'ai cru. Ce qu'il y a un qui n'est pas content ce matin. Il n'est pas content d'entendre ses paroles, mais peu importe. Jésus m'a dit, tu ouvres ta bouche et je vais la remplir. Parle à mon peuple de la vie éternelle ce matin. Oh, que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Vous savez, un serviteur du Christ, il est ce qu'il est. Et même si quelquefois, à son encontre, se tiennent certains propos, il n'en a que faire. Je parle pour moi. Mon travail, c'est de dire ce que Jésus veut que je dise. Et une fois que je suis dans le plan de Dieu concernant la direction du Saint-Esprit, moi je ne connais personne selon la chair. J'ai un maître que je sais. C'est lui qui un jour a payé pour acheter mon âme de l'esclavage. Et un jour, c'est à lui que je devais rendre compte de vos âmes. Mais je m'acquitte du divin service pour la gloire de mon Père. Et une fois qu'il me donne la direction, je fais de mon mieux pour lui plaire. Ça va toujours? Alors, on a vu la référence que je viens de vous donner. Mais si vous voulez avec moi regarder dans 1 Jean le chapitre 2, c'est un texte qui est chargé aussi d'enseignement puisque le Saint-Esprit permet que l'apôtre l'envoie à ceux qui nous ont précédés, appelés communément l'Église primitive. Et quand j'ai regardé cela de près, j'ai vu qu'il y a 3 catégories. Donc nous partons déjà dans 1 Jean. J'ai dit 1 Jean 2, verset 12. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, à cause du nom de Christ, à cause du nom de Jésus. Et puis après aussi qu'il s'adresse au Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu la connaissance. Or, dans la réalité, les pères dont il est question ici, eh bien, avant d'être pères, ils ont été jeunes gens. Et avant d'être jeunes gens, ils ont été petits-enfants. Petits-enfants, pères et jeunes gens, ou petits-enfants, jeunes gens et pères. Mais là, il met les pères comme une charnière. Les pères sont mis comme une charnière. Regardez, je vous ai écrit petits-enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Petits-enfants, on n'a pas une grande connaissance. Petits-enfants, on n'a pas une grande expérience. Mais petits-enfants, on sait que nos péchés sont pardonnés. Père, je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. La connaissance, comme je viens de vous le faire partager dans ce que Dieu donne à Jérémie, dans l'oracle au travers duquel nous entrevoyons la promulgation de la grâce de Dieu manifestée au travers de l'œuvre de Jésus à la croix. Mais après, regardez ce qu'il dit. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Puis il reprend. Petits enfants, je vous ai écrit, petits enfants. Tiens, ceux qui étaient mentionnés premièrement pour avoir fait l'expérience du pardon, là il mentionne, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Après, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement, toujours la connaissance. Et puis, il conclut, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui possède les promesses. Et quand la parole de Dieu demeure en moi, les promesses deviennent vie en moi. Le Saint-Esprit l'alimente. Je crois, je vis, alors je vois.
Amen.
Gloire à Dieu. Allez, on continue. Je sens que ce matin, vous êtes en forme pour Jésus. Est-ce que vous êtes en forme pour Jésus?
Alléluia.
Eh bien, on y va. Gloire à Dieu, alléluia. Donc, nous avons vu, frères et sœurs en Christ, comment la référence qui nous amène sur le terrain de la connaissance est importante. Nous allons maintenant voir une deuxième référence. Mais cette deuxième référence, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Je n'ai qu'à lire 1 Jean 5. Verset premier. Dans 1 Jean 5, 1. Alléluia. Ah, que Dieu soit béni. Ah, mais bien aimé, vous savez quelque chose? Vous avez quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose? Non, vous ne savez pas, mais vous allez savoir. Ah, mais j'ai oublié de vous donner encore deux références importantes. Avant de regarder ce que je viens de vous donner, revenez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Jean, le chapitre 2, c'est ça? On a lu le verset 12. Mais maintenant, regardez avec moi 1 Jean, le chapitre 2. Mais allons maintenant au verset 1 Jean, le chapitre 2, verset 5. Alors, 1 Jean, non, c'est pas ça. C'est 1 Jean 5, voilà, 1 Jean 5. C'est 1 Jean 5, verset 9. Alors, revenez avec moi dans 1 Jean 5, mais le verset 9. On y va? Continuons. Alors, si nous recevons le témoignage des hommes, dites avec moi, le témoignage de Dieu est plus grand. car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et ce matin, nous croyons le témoignage que Dieu a rendu à son Fils Jésus-Christ. Et quel témoignage plus grand? Eh bien, c'est la résurrection de Jésus d'entre les morts. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Gloire à Dieu. Continuons, frères et sœurs, en Christ. Celui, verset 12, c'est ça? 11, c'est ça? Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné. Ah, Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans. Alors, pas de vie éternelle sans Jésus. Pas de vie éternelle sans Jésus. Mais si tu as Jésus, alors tu as la vie éternelle. Il y en a qui se battent pour la religion. Moi, je combats pour garder Jésus dans mon cœur. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que j'ai la vie éternelle. Continuons. Verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, dites avec moi, il n'a pas la vie. Mais écoutez, je n'ai pas besoin de faire des études ni d'être fort en mathématiques. Je n'ai qu'à croire l'Écriture. Et puisque j'ai Jésus, alors j'ai la vie éternelle. Vous remarquerez que la Bible ne dit pas qu'il sera un super saint. Il faudra lui mettre une couronne sous la tête. Qu'il sera le meilleur chrétien. C'est pas ça. Si j'ai le Fils, alors j'ai la vie éternelle. Amen. C'est clair. Allez. Verset 13. Ah, je l'ai déjà lu. Je le pense. Ah ben d'accord, mais on le lit, il ne faut pas vous fâcher. Je sais que ça fait du bien, mais il ne faut pas vous fâcher, frères et sœurs en Christ. Attendez. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Qui? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je ne sais pas pour vous, mais moi. Je voudrais bondir sur l'estrade. Je me retiens. Je me retiens, je me contiens. Quand vous lisez ça, quand vous le vivez. Alléluia. Oui, c'est une réalité divine dans le cœur de l'enfant de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs en Christ, ce que cela produit? Eh bien, voici ce que cela produit. Regardez avec moi. 1 Jean 5, mais maintenant le verset premier. Quiconque croit que Jésus est le Christ, dites avec moi, il est né de Dieu. Alléluia. Il est né de Dieu. Et derrière l'expression « né de Dieu », vous avez tout de suite compris qu'il est question de la nouvelle naissance. Quand si tu n'es pas né de nouveau, tu peux être religieux jusqu'au bout des ongles, mais tu n'as aucune garantie de la vie éternelle. La vie éternelle devient une réalité dans ton cœur quand tu es né de Dieu. Quand tu es né de Dieu. Où sont ceux qui ce matin peuvent attester en levant la main qu'ils sont nés de Dieu? Levez la main.
Car si tu es né de Dieu, alors là, la vie éternelle, c'est une réalité que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Et vous remarquerez que cela se fait indépendamment des épreuves que je vais rencontrer, de tout ce à quoi je peux être confronté. Je peux devoir affronter la maladie, des problèmes que j'aurais tellement aimé éviter, mais ça n'enlève en rien ni affecte ma vie éternelle en Jésus-Christ. D'où la déclaration de l'apôtre. Il estime que les légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées au poids de gloire éternelle qui nous est réservé dans les cieux. Regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, pour aller plus loin. Ce que l'apôtre, dans la même lignée, va amener comme référence ou comme clarté dans cette église de Galates, où malheureusement des faux docteurs étaient passés, il y avait semé une doctrine erronée dans le cœur de certains enfants de Dieu quant à l'importance de la circoncision. Vous devez comprendre que certes, vous avez accepté Jésus comme sauveur, vous êtes devenu chrétien, mais pour pouvoir mériter le ciel, il faut accompagner votre foi d'un acte appelé la circoncision, qui était une intervention d'un spécialiste sur le prépuce de l'enfant mâle qui le démarquait des gens des nations et qui l'introduisait dans le peuple de Dieu. L'apôtre va clarifier ça et comme un tranchant, il va trancher fermement. Regardez, Galates, le chapitre 6, verset 15. Et retenez bien la référence de Jean 5, 1. L'importance d'être né de Dieu. Alors, j'ai dit quoi? Galates 6, verset 15. Alors, laissez-moi trouver ma référence. Ne soyez pas impatients. Alors, Galates, c'est après quoi? Ah, quelqu'un m'a dit quoi? Tiens, merci frère. Après Corinthiens? Quel Corinthiens? 2? Avant Éphésiens, alors? Voilà. Vous voyez, j'ai besoin de vous, hein? Alors, Galates 6, verset 15. Voulez-vous que nous prenions le verset 14? Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur, Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature ou une nouvelle création. Celui qui parle ici, en sa qualité de juif et de citoyen romain, certainement qu'il avait connu, en se soumettant à la loi, puisqu'il dit qu'il était irréprochable en ce qui concerne la justice qui s'obtient par la pratique des œuvres de la loi. Donc, c'est un homme qui certainement s'était fait circoncire. Ah oui. Mais maintenant, Dieu l'a éclairé. Alléluia. Quand Dieu ne vous a pas éclairé, vous êtes encroûté dans des a priori. Et étant encroûté dans les a priori vous amènent à entrer dans une logique qui vous met dans une inconcevabilité qu'il puisse exister quelque chose d'autre que ce que vous avez cru ou que vous croyez et que vous défendez bec et ongle. Écoutez, quelqu'un s'appelait l'apôtre Pierre. Monsieur Pierre avait des a priori. Et il était tellement encroûté dedans que lorsque Dieu va lui montrer une vision divine avec une nappe attachée aux quatre coins qui descend dans lequel il y a des animaux purs et impurs, et que la voix lui dit, lève-toi, tue et mange. Il n'a pas dit alléluia, non jamais. Rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. A priori, il était sincère dans son attachement au judaïsme, mais le Seigneur voulait lui montrer une donner leçon qui va découler de sa première confession lorsqu'il rentre chez Corneille. Je reconnais en vérité que Dieu ne fait point de favoritisme. Il a fallu 3 fois pour qu'il comprenne la leçon. Ça veut dire que lorsqu'on est encroûté dans nos a priori, on ne veut pas en démordre. Mais Dieu est plus grand que nos a priori. Et lorsqu'il décide d'intervenir pour nous en débarrasser, il a ses méthodes à lui. Qui aurait pu penser qu'au moment où l'apôtre avait faim, une vision céleste lui montre une nappe qui descend du ciel, attachée aux 4 coins, et dans lequel il y a des animaux purs et des animaux impurs, et que la voix lui dise, lève-toi, tue et mange. Non, jamais, ni de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche, jusqu'à 3 fois, jusqu'à ce qu'il comprenne que lorsque ces hommes sont arrivés, envoyés par le Saint-Esprit lui dit, descends et pars avec eux, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Et lorsqu'il arrive dans la maison de Corneille, Corneille lui explique un petit peu ce qu'il a expérimenté lui. Alors il comprend que Dieu est en train de dérouler un plan qui est le sien, mais dans lequel Dieu l'a introduit afin qu'il soit un élément pour faire rentrer le salut dans la maison de Corneille. Frères et sœurs en Christ, ce Dieu-là, il est notre Père. Ce Seigneur-là, Jésus-Christ, il est au milieu de nous ce matin. Et c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je continue. Alors, vous savez, donc, en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Ce qui est quelque chose, c'est quand tu es né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit qui t'a fait rentrer dans cette nouvelle naissance, ou qui a fait en sorte que cette nouvelle naissance prenne effet en toi, il accompagne la nouvelle naissance parce que l'apôtre Pierre, dans la lettre qu'il envoie, affiche, et il affiche cela en louant Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Comment? Par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Une espérance qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Et qui nous est? Dites le plus fort, qui nous est? Réservé dans le ciel. À nous qui par la foi sommes gardés pour le salut peut être manifesté dans les derniers temps. Alléluia. C'est là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous sommes attristés par diverses épreuves. Mais vous remarquerez, frères et sœurs en Christ, que être attristé par diverses épreuves n'affecte en rien la réalité de la vie éternelle dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prend soin de nous montrer, régénéré pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cela veut dire que l'espérance vivante est liée à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et ainsi, ça ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Alléluia, ça vous est réservé dans le ciel. Écoutez, moi, frères et sœurs en Christ, je bénis Dieu. Je ne suis pas là pour faire des manières devant vous. Ça ne m'intéresse pas. Mais je vis ce que je vous prêche ce matin. C'est quelque chose que le Saint-Esprit a mis en moi comme une réalité vivante. Alors, c'est ça que le Seigneur veut afficher dans nos cœurs ce matin. Hébreux 2, verset 14. Nous entrons dans la troisième et dernière référence et puis on a fini après. Hébreux 2, verset 14. Que Dieu soit béni et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé. Vous avez compris qu'il est question de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous donne la vie éternelle, celui par qui nous avons la vie éternelle. Il y a participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui avait, cela veut dire il l'a eu, il l'avait, mais il ne l'a plus. Il ne l'a plus. Il en a été dépouillé. Par qui ? Par Jésus. Et qu'est-ce qui en découle ? C'est-à-dire le diable. Verset 15. Ainsi, par conséquent, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Mais moi, frère Claude, ou monsieur Gentil, avant d'avoir expérimenté le salut de Dieu, j'avais peur de la mort. C'est logique, j'avais peur de la mort. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Ils sont riches, ils sont aisés, ce sont des artistes, ils ont pignon sur rue, mais dans leur cœur, il y a la peur de la mort. Mais un enfant de Dieu, il a été délivré par Jésus de la crainte de la mort. Je sais qu'un jour, si Jésus tardait à venir chercher ceux qui l'attendent pour leur salut, eh bien, je vais quitter la terre. Personne n'est éternel ici-bas. Le seul dont j'ai entendu le témoignage dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 16, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. Voici, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il s'appelle Jésus-Christ. Mais quand moi je fais les enterrements et que je prends des textes bibliques pour montrer autant ce qui découle de la foi qu'avait le défunt, la foi qu'il avait introduite dans l'espérance, alors je prends Apocalypse 14 au verset 13. Où l'apôtre Jean déclare et rapporte par écrit ce qu'il a entendu dans le ciel. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi ils sont heureux? Ils ont été délivrés de la crainte de la mort. Et ils savent que le moment venu, ils vont se retrouver au bénéfice de la parole du psalmiste, qui dans le psaume 23 déclare l'éternel est mon. Je ne manquerai de. Il reste en mon. Il me conduit dans le vert pâturage. Mais quand il arrive à ce moment, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je tremble de tous côtés. Je ne crains aucun mal. Alléluia. Parce qu'il est avec moi. Il a été délivré de la crainte de la mort. Il sait que le moment venu, ce sera un passage pour lui, mais pour entrer dans la vie éternelle. Le corps, c'est pour la poussière de la terre,
Et l'âme sauvée, c'est pour le repos dans le Seigneur, jusqu'au moment où Jésus-Christ reviendra pour donner à ce corps semé corruptible une nouvelle enveloppe qui, réunie avec mon âme sauvée, constituera celui qui vivra avec Jésus-Christ pour l'éternité. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, nous savons que quand cela se manifestera, tel il est, tel aussi nous sommes. Or aujourd'hui, Jésus possède un corps qui n'est pas soumis à la pesanteur, un corps qui peut traverser la matière. Enfin, Jésus possède un corps qui ne meurt plus. Mais tel il est, avec ce corps, c'est tel nous serons dans la vie éternelle. Alors écoutez, si vous me faites un chèque de 1 milliard, si vous me faites un chèque de 1 milliard, vous voudriez m'enrichir. Et quand vous me dites en échange, donnez-moi votre vie éternelle. Je vous dirai, gardez vos milliards. Moi, je garde Jésus. Amen. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit je garde la vie éternelle, hein? Je vous ai dit je garde Jésus. Parce que c'est Jésus qui me donne la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.